des vignes et des oliviers. Là, dans la maison du prêtre, l'attendait un supplice d'un nouveau style. Deux médecins décidèrent que pour guérir les yeux, il convenait de percer les oreilles. Ce qu'ils entendaient par là n'est pas clair, mais dut être atroce, et comme il fallait s'y attendre, parfaitement inutile. François, avec ses blessures, ses névralgies lancinantes et ses paupières en feu, alla se cacher dans la grotte qui servait de cave au prêtre pour échapper à la lumière. Il y passa un mois, ne quittant ce refuge qu'à la tombée du jour, à l'heure bleue du crépuscule. Qu'on l'imagine dans cette cave, livré à d'horribles douleurs que rien ne pouvait soulager, soumis à une inactivité totale. Qu'on me permette ici un souvenir personnel. On demandait à un religieux que j'ai connu dans ma jeunesse et que torturait un mal incurable « Vous ennuyez-vous dans votre solitude ?» Question absurde. Il répondit « Je ne m'ennuie pas puisque je souffre. » Quelle occupation plus absorbante, en effet. En ce qui touche François, il n'est pas excessif de parler d'un calvaire. Après le jardin des délices des premières extases, il goûtait maintenant l'amertume du jardin des oliviers. L'horreur de la nuit obscure, la connut-il là? Mais au-delà des ténèbres physiques, de la solitude que crée la souffrance corporelle, il était avec Dieu. À la fin de l'automne, il regagna Fontecolombo. L'épreuve sembla s'adoucir un peu. Il y eut une halte dans son supplice. Ses compagnons ne le quittaient plus. Lorsque le pape ou le cardinal Ugolin exprimait le désir de le voir à Rieti, on menait le malade au couvent que les frères avaient en ville, et l'hiver approchant, il décida de partager son temps entre les deux ermitages. Les sinistres médecins venaient rendre visite à leur illustre victime, tirant de leur imagination fertile de nouveaux traitements toujours infructueux. On admirait le courage et la bonne humeur de François. À Fontecolombo, il lui prit un jour la fantaisie d'inviter à déjeuner, après sa consultation, le médecin du pape, lequel ce jour-là accepta avec empressement, à la consternation des frères qui savaient d'avance la composition du menu. Quelques légumes, du pain et de l'eau fraîche. Cependant, au nom de la sainte obéissance, ils mirent la table pour faire honneur à leur invité. À peine était-il assis, on frappa à la porte et une paysanne inconnue fit son apparition avec un panier offert par une châtelaine des environs. Des poissons, des raisins, des gâteaux au miel et un pâté d'écrevisses. Il se trouvait que le pâté d'écrevisses était un des plats dont François se montrait friand dans sa jeunesse, et le goût ne lui en était pas encore passé. Car sans hésitation, il en goûta avec un plaisir évident. On lui demanda des éclaircissements sur l'inconnu et ses largesses. Il se tut. Il fit simplement les honneurs de ce repas à l'heure haute, comme si rien n'avait été improvisé. Cet hiver de 1225-1226 se passa sans apporter d'amélioration dans l'état de François. Bien au contraire, il payait chèrement toutes les mortifications dont il avait jadis accablé son corps. Outre la tuberculose qui le mine, son estomac est atteint, comme aussi le foie. C'est la mort qui vient. Il le sait d'une façon certaine depuis que frère Élie la lui a prédite à Foligno. Mais qu'a-t-il à craindre? Les cieux lui sont ouverts, cela aussi il le sait. Néanmoins, lorsqu'il jette un regard en arrière sur sa vie depuis sa conversion, il y voit se confondre victoire et défaite. Il voulait sauver le monde, et le monde, comme toujours, se rue à sa perdition. Qui peut sa petite famille franciscaine, sa fraternité? Ses tentations du doute sont plus subtiles que les tentations charnelles, mais plus cruelles. Le démon ne désarme jamais. L'assurance du salut, il cherche à l'empoisonner. Par-delà les siècles, le cas de Thérèse de Lisieux est là. En avril, un ordre vient du cardinal protecteur et du ministre général d'envoyer François à Sienne se faire soigner là-bas par des médecins réputés. Comme il en a assez, des médecins.